Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à la naissance de Nike. Nike est une société américaine créée en 1968 par Philip Knight et Bill Bowerman. Basée à Beaverton, dans l'Oregon, elle est spécialisée dans la fabrication d'articles de sport, chaussures, vêtements et matériel de sport. Le nom Nike est inspiré de la déesse grecque de la victoire, Nike, déesse ailée capable de se déplacer à grande vitesse, dont la représentation la plus connue est une statue exposée au Louvre, la victoire de Samothrace. En 1963, Bill Bowerman est entraîneur d'athlétisme au sein de l'Université de l'Oregon aux États-Unis et Philip Knight est un étudiant en comptabilité et coureur de demi-fond. Ils ont l'idée d'importer des chaussures d'athlétisme peu chères et de haute technicité depuis le Japon. À cette époque, les marques allemandes comme Adidas et Puma dominent totalement cette industrie. Phil Knight courait ici le miles, c'est-à-dire 1609 mètres à la fin des années 50 avec l'équipe universitaire, en se demandant comment remplacer les pointes Made in USA, des chaussures de course médiocres, souvent fabriquées par des filiales des grandes industries du pneumatique et de loin du niveau des Adidas venus d'Allemagne. Quelques années de réflexion et un tour du monde plus tard, il a la solution. Importer des Tigers, un modèle japonais de chez Onitsuka. Ainsi a commencé une aventure commerciale qui va donner naissance en 1972 à un géant de l'industrie du sport, Nike. Phil Knight est un grand bon au regard énigmatique. Il s'est installé à Eugene en 1956. Il est fils du directeur d'un journal de Portland, The Oregonian. Il prépare une licence de comptabilité, bachelor's degree, à l'Université de l'Oregon. Quelques bâtiments en briques rouges, une maison victorienne, une bibliothèque et des dortoirs. On est loin des standards des grandes universités de la côte Est, mais l'établissement, ouvert en 1876, ne manque pas de charme. Le campus s'étend dans un superbe domaine planté de sapins de Douglas et de rhododendrons, et il voisine avec un émouvant cimetière des pionnières, souvenir des immigrants européens du XIXe siècle. Et puis il y a ce stade, le Hayward Field, et l'excellente réputation de l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme de l'université, Bill Bowerman. La vague de la contre-culture n'a pas encore déferlé sur la jeunesse américaine, mais Eugene fait déjà figure d'oasis libérale dans cet Oregon largement blanc et conservateur. Phil Knight vit dans une fraternity, ces belles maisons proches du campus, qui abrite les fils des familles aisées où l'on s'amuse et tisse des réseaux utiles pour l'avenir. De plus de son job de reporter sportif au journal du campus, le Daily Herald, il se défoule avec l'équipe d'athlétisme. Sur la piste, c'est un athlète méritant, mais jamais il n'approche l'élite des coureurs de demi-fond. Le club des sub-4, c'est Myler, qui avale les 1609 mètres en moins de 4 minutes. Il ne reste bloqué à un honorable 4 minutes 11 secondes, un temps de porteur d'eau, rigolent ses amis. Hors piste, il suit de près les recherches de Bill Bowerman. Il se porte volontaire pour tester les chaussures bricolées par son entraîneur et lui fait part en retour de ses impressions. Un autre athlète, Otis Davis, jeune sprinter noir de l'Alabama, est arrivé dans l'Oregon avec des pieds déformés. Il a fallu lui faire des pointes sur mesure. En 1959, Phil Knight l'observe devancer les favoris avec ses chaussures customisées par Bowerman. Une graine a été semée ce jour-là. En 1960, à Rome, Otis Davis devient double champion olympique, 400 mètres, et relais 4x400 mètres. William J. Bowerman est lui aussi un homme de l'Oregon, qualité dont il ne manque jamais de s'enorgueillir. Après la guerre où il a combattu en Italie avec la 10e division de montagne, il est dans l'université de l'Oregon qui lui propose ce jour-là le poste d'entraîneur, head coach de l'équipe d'athlétisme. Une offre qui ne se refuse pas. Il range ses élèves en deux catégories, les Tigers et les Hamburgers, comprendre les battants et les autres, et nouer avec eux des relations paternalistes. Vous allez avoir à choisir entre être un bon athlète et être un bon amoureux, leur lance l'homme à la carrure de footballeur américain et au crâne dégarni, souvent couvert d'un chapeau. Les étudiantes, elles, ne sont pas encore admises dans ce boys club, pas plus que les coureuses de fond ne sont invitées aux grandes compétitions. Le premier marathon olympique féminin aura lieu à Los Angeles en 1984. Dans son garage, William J. Bowerman s'amuse à triturer ses pointes. Il les éventre, teste des produits pour améliorer les semelles, tente de remplacer la partie en cuir par des créations très personnelles, de la peau de kangourou par exemple. Il tâtonne avec une obsession, gagner quelques grammes, et une idée derrière la tête. Convaincre les équipementiers sportifs américains de rivaliser avec les Adidas. Dans son bureau, il multiplie les courriers à l'intention de ses fournisseurs habituels de chaussures et de matériel divers, caoutchouc, uréthane, pneumatique, mais aussi, comme on peut le lire dans les Bowerman Papers, archivés à la bibliothèque de l'Université de l'Oregon, à l'un des deux frères d'Essler, Adolf, dit Adi, brouillé avec son frère Rudolf, Rudy, parti créer la marque Puma. Il le complimente pour la qualité de ses produits, mais conteste les méthodes de son représentant aux États-Unis. Pendant ce temps-là, l'étudiant Phil Knight a quitté l'Oregon pour la Californie, où il poursuit ses études de commerce MBA à Stanford. Quand un professeur invite sa classe à plancher sur une étude de cas, il propose cette thématique. Est-ce que les chaussures de sport japonaises peuvent faire aux chaussures de sport ce que les appareils photo japonais ont fait aux appareils photo allemands ? Drôle de question, mais excellente manière de pousser la réflexion entamée au Hayward Field et qui sait, de s'offrir un périple dans l'archipel nippon. Le Japon est à la mode aux États-Unis au début des années 1960. Moins de 20 ans plus tôt, après l'attaque de Pearl Harbor, les Américains d'origine japonaise pouvaient pourtant être traités de rats. Plus de 100 000 d'entre eux avaient été internés dans les camps. Mais, après la guerre, la diplomatie américaine veut transformer l'ancien ennemi un allié modèle. Une campagne de relations publiques de haut vol présente l'archipel nippon comme un bastion d'élégance et de liberté dans le Pacifique. L'Amérique s'entiche alors de la culture et des traditions japonaises. Des mangas apparaissent dans les librairies, des films de samouraïs dans les cinémas, tandis que les intérieurs voient fleurir des motifs orientaux, des panneaux soji et des bonsaïs. Le Japon n'est plus ce pays qui exporte des produits bon marché. De nouvelles marques comme Sony ou Honda percent sur le marché américain. Le Japon, c'est chic. La beat generation de Kerouac et Ginsberg adore le bouddhisme zen. Phil Knight aussi. À Portland, il a grandi dans un univers tourné vers l'Asie. Géographie oblige. Et son héros de guerre n'est-il pas Douglas MacArthur, ce commandant suprême des forces armées dans le sud-ouest du Pacifique, à qui il emprunte l'une de ses maximes ? On ne se souvient de vous pour les règles que vous avez enfreintes. Un billet en poche, Phil Knight file vers l'Extrême-Orient en 1962. À Tokyo et à Kobe, il rencontre des responsables chez Onitsuka, où l'on produit de bonnes chaussures à bas coût. Faisant un essai, propose-t-il, faites-moi parvenir quelques paires de Tiger. Je les teste sur mes amis coureurs de fond. Marché conclu. Après quelques relances, 300 paires arrivent à destination, près d'un an plus tard. La qualité des produits semble aléatoire, mais Phil Knight les entasse dans sa Plymouth et part à la conquête des stades de la côte ouest. À Eugene, il montre ses trésors à Bill Bowerman. Les Japonais, les plus grands imitateurs du monde, ont investi un nouveau marché, les chaussures d'athlétisme. Et leurs flats, modèles sans les pointes, sont exceptionnels, peut-on lire dans un courrier archivé à la bibliothèque de l'Université de l'Oregon. L'entraîneur est convaincu, et dès août 1964, il attire l'attention de ses étudiants sur ces Tigers importés par un ancien élève. Jamais rien vu de mieux, leur écrit-il. Quelques mois plus tard, il propose à son ex-étudiant de devenir son associé. $500 chacun. Ainsi naît officiellement Blue Ribbon Sport, BRS, comme le ruban bleu que coupent les vainqueurs des courses. Il y aura des crises, des bagarres entre eux, avec les banques qui s'émeuvent de surendettement de la jeune entreprise, avec les douaniers qui réclament des taxes astronomiques, avec les Japonais qui refusent de garantir à BRS l'exclusivité de la distribution des Tigers à l'ouest du Mississippi. Et pour finir, un procès, un divorce avec Onitsuka. En mai 1972, la voie est libre pour lancer une nouvelle marque 100% américaine. Elle porte le nom d'une déesse grecque. Nike se trouve un logo dynamique, une sorte de virgule horizontale baptisée le Shoes, la virgule. La marque a ainsi assuré sa notoriété avec ce logo simple et rapidement reconnaissable, la virgule, posée à l'envers et à l'horizontale. Cette virgule a été créée par Caroline Davidson en 1971 comme une représentation stylisée de l'aile de la déesse. Pour l'aider à préparer les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, les deux cofondateurs de l'entreprise, Fick Nike et Bill Bowerman, offrent un contrat de $5,000 annuels. Le nouvel ambassadeur de la marque prend la route des meetings d'athlétisme. Il présente de nouveaux modèles à certains compétiteurs, leur envoie parfois une paire assortie de conseils. Marie Decker, une jeune athlète installée à Eugene, en est l'une des premières bénéficiaires, comme Bill Rogers, qui confie « Un mois avant le marathon de Boston, en 1975, j'ai reçu un colis avec une paire de Nike et une lettre très gentille de Steve Préfontaine, que je connaissais seulement de nom. » Chaussé de ses nouvelles baskets, il remporte le premier de ses 4 marathons de Boston. Elles m'allaient parfaitement bien, les lacets se défaisaient, mais elles étaient géniales. Un soir de mai 1975, à l'issue d'un meeting organisé par ses soins à Eugene pour faire la nique aux pontes de l'amateurisme, Steve Préfontaine dévale trop rapidement le Skyline Boulevard au volant de sa MJ. Il vient de s'écraser sur un rocher en pleine nuit. L'autopsie révèle une alcoolémie légèrement au-dessus de la norme autorisée. Mais la légende est en marche. Aux États-Unis, la presse spécialisée en fait le James Dean du running. Le rocher fatal se transforme en Bruce Rock. Des runners du monde entier viennent s'y recueillir là. En 1981, Nike devient numéro 1 de la chaussure sport aux États-Unis et en profite pour entrer en bourse. En 1982, l'entreprise lance la Air Force One Basketball, une chaussure de basketball. En 1984, le basketball devient le sport phare de la marque avec la signature du joueur Michael Jordan et la création de la Nike Air Jordan. En 1997, c'est l'année noire pour la firme, qui est accusée de faire fabriquer ses produits par des sous-traitants employant des enfants. En 2003, Nike rachète son rival Converse. En 2005, Fick Nike, devenu PDG, fondateur de Nike, prépare sa succession. Il désigne son successeur, Bill Perez, avant de pousser ce dernier vers la sortie et de le remplacer en janvier 2006. Nike réalise 60%, voire 80%, de ses ventes à l'étranger. L'entreprise est actuellement le plus grand équipementier sportif dans le monde, avec un chiffre d'affaires de $50 milliards, devant Adidas, qui fut le leader incontesté pendant 50 ans. Les plus grands concurrents de Nike sont donc Adidas et Puma. En septembre 2014, Nike devient le premier équipementier mondial pour le football, devant Adidas. En 2007, Nike rachète Umbro. En 2009, la marque américaine devient l'équipementier de l'équipe de France de football. Le contrat de 320 millions d'euros, pris au concurrent allemand Adidas, prend effet en 2011. Cette même année, Nike annonce avoir déposé un brevet pour la création de chaussures à laçage automatique attendue depuis 1990. En 2011, le groupe de défense de l'environnement, Greenpeace, annonce avoir trouvé parmi les échantillons de vêtements Nike, mais aussi sur d'autres marques comme Lacoste, Ralph Lauren, Puma, Adidas, des traces d'éthoxylate de nonyphénol, un perturbateur hormonal, qui sont également rejetées dans les eaux chinoises et s'intégrerait dans la chaîne alimentaire, notamment à travers les poissons. La marque s'engage à éliminer de ses processus de fabrication toute substance chimique toxique d'ici à 2020. À partir de l'été 2017, Nike met en place un partenariat avec Amazon pour vendre directement ses produits en ligne. Depuis la saison 2017-2018 de NBA, Nike est le nouveau sponsor de la Ligue américaine de basketball, remplaçant ainsi son rival Adidas. Le logo de la marque pourra alors apparaître sur les maillots de toutes les franchises, ce qui n'était pas le cas avec l'équipementier allemand. En 2022, Nike engrange en un quart d'heure autant de revenus qu'en 1972, a calculé le site d'analyse financière StockHubs. L'entreprise, née de la rencontre d'un entraîneur passionné et d'un étudiant intuitif, est aujourd'hui un mastodonte qui emploie 75 000 personnes dans le monde. Après avoir décollé grâce à un modèle de chaussures conçu à l'aide d'un gaufrier et à une technique permettant d'emprisonner une bulle d'air dans ses chemins, la marque s'intéresse aux athlètes numériques et aux athlètes du métavers. En effet, ceci rentre dans ce qu'on appelle une entreprise qui excelle dans le récit de son histoire. Et elle n'est pas née par hasard sur le campus de cette université de l'Oregon, où étudia aussi l'écrivain Ken Kesey, un lutteur, pas un coureur, auteur de « Vol au-dessus d'un nid de coucou » et de cette célèbre saillie « Au diable les faits, on veut les bonnes histoires ». Nike ne possède pas d'usine de fabrication et travaille avec des sous-traitants. L'entreprise est critiquée pour les conditions de travail des ouvriers dans les usines sous-traitantes de la marque situées en Asie, au Mexique, souvent installées dans des zones franches, comme la plupart des autres marques sportives, afin de rentabiliser au maximum leurs marges bénéficiaires. Les Paradise Papers, publiés en novembre 2017, montrent que l'équipementier pratique l'optimisation fiscale par une série de montages financiers entre les Pays-Bas et les Bahamas, ce qui lui permettrait de réduire son taux d'imposition à 2% en Europe, contre 25% en moyenne pour les entreprises européennes. Nike est donc cette entreprise importante qui prolonge en quelque sorte, depuis le début des années 70, le phénomène du running. Les gens se mettaient à courir, à faire du jogging ou des courses sur route. C'était le grand boom du running aux États-Unis dans les années 1970. Et c'est avec l'émergence d'un étudiant très important, Steve Prefontaine, que la société allait populariser la mode naissante du running à travers tout le pays, mais aussi à travers tout le monde.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.